Bonjour à tous. J'allais vous dire bon après-midi, mais il pleuvait des cordes, et ça va encore se mettre à pleuvoir à verse, mais on a besoin de cette pluie parce qu'on est dans l'Ohio, et s'il ne pleut pas pendant un quart d'heure, on est en pleine sécheresse. C'est à peu près comme ça que ça marche dans cet état. Je me souviens qu'il y a quelques semaines, Monsieur Lee se plaignait que le sol était détrempé, et hier, il me disait qu'on avait besoin de pluie. C'est pour ça que j'aime travailler avec des ordinateurs. Soit ils ont raison, soit ils ont tort. Bon, c'est un week-end sympa. On accueille des gens venus d'ailleurs. On a quelques invités ce week-end. D'autres arrivent ici pour travailler cet été, et certains d'entre nous se retrouvent pour un pique-nique. Ce n'est pas que nous n'avons pas appelé ça la fête. Nous l'avons appelé un pique-nique parce que ce n'est pas la grande fête qui aura lieu plus tard, mais c'est l'occasion pour tout le monde de se retrouver, et chaque fois que les frères se réunissent, c'est une bonne chose. Il y aura de la nourriture. Tellement de nourriture. Il y a toujours tellement de nourriture ce soir et demain. Convivialité. Conversation, activité, une ambiance animée. C'est l'un de mes moments préférés, quand on est sous le pavillon ou dans la salle principale, et qu'on entend ce bruit, cette cacophonie de gens qui parlent et s'amusent. Et c'est différent quand cela se passe en dehors des services du sabbat. Cela ne veut pas dire que vous n'appréciez pas la fraternité avant les services et que vous ne l'apprécierez pas après. Mais il y a juste quelque chose de différent quand on enlève la cravate, qu'on est plus décontracté, et qu'on se trouve dans un environnement où la fraternité n'est pas liée au service du sabbat. C'est différent. Mais en réalité, ce que cela devrait être pour vous et moi, c'est une image dans notre esprit, une pensée, un contexte ou une compréhension que vous et moi ne sommes pas destinés à vivre des vies isolées. Nous ne sommes pas destinés à vivre seuls, à marcher seuls, à être seuls. Et selon votre type de personnalité, vous devez lutter contre l'un ou l'autre de ces écueils. Je dis cela aux gens, et personne ne me croit jamais, mais je suis très introverti, et cela peut paraître drôle de me voir debout ici, mais je suis très à l'aise quand je suis seul. Parfois. J'entends les membres de ma famille me dire, tu devrais me répondre. Oh, qu'est-ce que tu disais? Et puis je dis à Elsian de ne pas faire ça. Non, je suis parfaitement à l'aise avec mes propres pensées, et je suis sûr que certains d'entre vous le sont aussi. D'autres d'entre vous sont probablement très extravertis, et vous vous nourrissez de l'énergie des autres, et je peux comprendre les deux côtés de la médaille. Car quand on est en compagnie des autres, on reçoit cette énergie qui suscite cette excitation. On peut donc tomber, ou je peux tomber dans l'un des deux pièges quand il s'agit d'être seul ou d'être ensemble. L'un des fossés, c'est celui du Lone Ranger, ou plutôt, je suppose qu'il avait Tonto. Donc, le fossé du loup solitaire. Pas celui du Lone Ranger, puisqu'il avait Tonto. Si vous ne savez pas ce que cela signifie, allez sur Internet, cherchez-le plus tard. Mais le loup solitaire, c'est juste moi, ma Bible, Dieu et mes convictions obstinées. C'est le mauvais côté où se trouver. C'est un fossé. Nous parlons ici des fossés. Vous pouvez être très sûr de vous, très centré sur vous-même, très replié sur vous-même, est vraiment difficile à atteindre ou à instruire. Mais c'est un fossé. Car Dieu ne veut pas que vous et moi soyons des ermites spirituels cachés, qui se contentent de partager certaines croyances, mais qui, en général, restent simplement cachés. Et si vous êtes plutôt introverti, vous devez lutter contre cela. Combattez cet aspect de vous-même ou de moi-même, dans ce cas. L'autre fossé, c'est celui où vous avez besoin des gens. D'un côté, vous pourriez les repousser, vous ne seriez jamais, Vous resteriez assis dans une pièce dans le noir. De l'autre côté, vous avez besoin d'avoir des gens autour de vous tout le temps. Pensez-y un peu comme ça. Imaginez que vous soyez, si vous êtes de ce côté-là de l'équation, un téléphone portable avec 1% de batterie, ou 5%, ou quelque chose d'incroyablement bas. Et tant que vous avez des gens à qui vous branchez autour de vous, vous pouvez continuer à fonctionner. Mais si vous perdez ces gens, alors ce 5 devient 4, puis 2, puis 1, et vous vous éteignez. Si les gens autour de vous sont encouragés, vous êtes encouragé. Si les gens autour de vous sont stables, alors vous êtes stable. Mais si les gens autour de vous hésitent ou sont incertains, alors vous cherchez peut-être à voir où va la foule. Encore une fois, il y a deux fossés, et en tant que chrétiens, nous restons généralement à l'écart de ces fossés et essayons de rester au milieu de la route. Notre modération se reflète dans tout ce que nous faisons. Nous essayons donc de rester à l'écart de ces fossés. Car Dieu ne veut d'aucun de ces extrêmes dans nos vies lorsque nous travaillons avec son peuple, ou qu'il se trouve dans le monde. Il ne veut pas que nous soyons isolés et que nous nous éloignions des gens. Mais il ne veut pas non plus que nos convictions soient si fragiles que nous ayons besoin des autres pour nous relever. Cela signifie qu'il y a une grande différence entre être seul et être à l'écart. Et je ne donne généralement pas de titre à l'avance, mais cela correspond bien à ce message. Le titre d'aujourd'hui est « Être seul sans être à l'écart ». Dieu ne veut pas que nous nous retrouvions dans l'un ou l'autre de ces fossés dans notre cheminement chrétien. Car si vous choisissez d'être seul, cela arrivera. Vous n'êtes pas tout le temps entouré de gens. C'est quand vous choisissez d'être seul que cela peut poser problème. Ou quand vous voulez toujours être seul. Parfois, je comprends, parfois vous voulez simplement être seul. Et d'autres fois, vous ressentez de l'énergie, vous voulez être entouré de gens. Mais quand vous choisissez de vous isoler des autres, c'est différent de choisir, ou du hasard, ou de la chance, ou des circonstances qui vous permettent d'être seul. Ce week-end est donc une excellente occasion de se concentrer sur ce que signifie être connecté, mais aussi simplement d'être convaincu. Cela nous rappelle que Dieu nous donne de la force à chacun individuellement, mais qu'il attend de nous, de vous et moi, de nous tous, que nous soyons connectés en tant que corps du Christ. Vous pouvez puiser de la force les uns chez les autres. Vous pouvez trouver de l'inspiration. Vous pouvez recevoir des encouragements. Et nous devrions le faire. Encore une fois, nous parlons de fossés. Nous voulons rester à l'écart de ces fossés. Ainsi, une fois que vous êtes sorti du fossé, quand quelque chose n'est pas tout noir ou tout blanc, ce n'est ni l'un ni le zéro, c'est toute cette zone grise au milieu, c'est cela qui constitue l'essentiel de ce que signifie être chrétien. Mais cela soulève en réalité une question plus large. Quel genre de force Dieu est-il en train de développer en vous? Quel genre de force Dieu est-il en train de développer en vous? Car en tant que peuple de Dieu, nous devons puiser notre force dans le corps du Christ. Nous devons développer une conviction qui ne dépend pas des autres ou d'un soutien visible. Et finalement, nous verrons à la fin de ce message que nous ne sommes en réalité jamais complètement seuls. Bon, vous pouvez noter le premier point ici. Nous allons aborder quelques points, puis nous passerons à la Bible dans un instant. Mais le premier point est que Dieu nous place. Donc, numéro 1, Dieu nous place dans un corps qui doit fonctionner. Dieu nous place dans un corps qui doit fonctionner. Vous pouvez voir les choses ainsi. J'aime les dictons parce qu'ils restent gravés dans mon esprit, et j'espère que cela fonctionnera pour vous aussi. Mais voici celui auquel je pensais aujourd'hui. Dieu appelle des individus isolés, mais il n'appelle pas les individus à l'isolement. Je vais le répéter, et j'espère que cela restera gravé dans votre esprit. Dieu appelle des individus isolés, pas seulement dans cette salle, mais partout sur la terre, partout dans le monde. Dieu appelle donc des individus isolés, mais il n'appelle pas les individus à l'isolement. Vous pouvez ouvrir vos Bibles au chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens. Dans ce chapitre, il nous a tous placés dans des rôles différents. Je me tiens ici pour prêcher le sermon. Certains d'entre vous ont aidé à l'installation, d'autres ont cuisiné et travaillé ensemble. Chacun d'entre nous, individuellement, fait partie du corps du Christ. Chaque membre, chaque partie doit avoir sa fonction et doit fonctionner pour que vous et moi puissions, et pour que le corps puisse fonctionner correctement. Rappelez-vous, le fait est que Dieu nous place dans un corps qui doit fonctionner. Et si vous n'avez pas de jambes, de bras, d'oreilles, de coudes ou quoi que ce soit d'autre, le corps ne fonctionne pas de la même manière. C'est intéressant, en vieillissant, on comprend que certaines parties du corps ne fonctionnent plus comme avant. On a mal, et puis elles ne fonctionnent tout simplement plus. J'ai fait quelque chose récemment, ça va mieux maintenant, donc j'aurais pu avoir besoin de votre compassion il y a 2 semaines, mais là, je vais bien, même si j'ai mal dormi. Et tout le monde a déjà vécu ça, j'en suis sûr. Je pourrais demander qui a déjà vécu ça, et tout le monde dirait, « Oh oui, j'ai mal dormi. J'avais une courbature dans la nuque. Et comme je suis encore assez jeune pour être têtu, j'ai continué à faire de l'exercice cette semaine-là et j'ai simplement ignoré la douleur. Et puis, quand le sabbat est arrivé il y a quelques semaines, j'étais allongé comme ça. Je ne pouvais plus bouger la nuque. Et pendant des années, voilà ce qui se passe, quand on est plus jeune, on sourit, on rit, mais ça finit par nous rattraper. J'avais souvent une courbature dans la nuque. Le lendemain, je me disais, « Oh, ça fait mal !» Puis je passais à autre chose, car ça finissait par disparaître. Mais cette fois, ça a duré, duré et duré. Et 2 semaines plus tard, je peux enfin tourner la tête dans toutes les directions sans avoir l'air d'un robot qui ne bouge que la taille. J'ai remarqué qu'une partie de mon corps ne fonctionnait pas. Le cou est extrêmement important quand il ne fonctionne pas. Vous avez tous vécu ce genre d'expérience. Je sais que certaines femmes traversent des moments dans leur vie où leur épaule se bloque, ou leur poignet, ou leur coude, ou que d'autres font face à leurs propres épreuves. On remarque quand le corps ne fonctionne pas comme il le devrait. Il doit fonctionner. Et nous sommes tous individuellement responsables de la place que nous occupons. Que nous soyons un orteil, un doigt, un coude, un cou, n'importe quoi. Vous êtes probablement à la 12e chapitre de la première épître aux Corinthiens. J'ai dit 12. Alors je vais vous laisser tourner la page pendant que je prends une gorgée. Et nous commencerons au verset 12. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres de ce corps, bien qu'ils soient nombreux, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Plusieurs membres, un seul corps. Dieu n'efface pas les individus. Je peux regarder autour de moi dans cette salle et voir toutes les couleurs, toutes les formes, tous les genres, tout cela dans la salle. Nous restons des individus. Mais il exige de nous que nous soyons unis. Verset 13. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou païens, esclaves ou libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons tous un seul esprit, l'Esprit de Dieu, qui agit soit avec nous, soit en nous. L'Esprit de Dieu est l'outil qui nous permet de changer. Verset 14. car le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Et le pied ne dira pas, parce que je ne suis pas la main, je ne fais pas partie du corps. N'en fait-il pas partie pour autant? C'est l'une des conversations les plus amusantes des Écritures que l'on puisse imaginer, et le petit garçon en moi ne peut s'empêcher de glousser quand je lis cela parfois, car on peut imaginer le corps parler au corps. Vous devez donc vous représenter cela. Vous ne regarderez plus jamais ce passage de la même façon après ce que je vais vous dire. Vous pouvez imaginer de petites bouches sur les différentes parties du corps. De toutes petites bouches animées. Je vais vraiment vous embrouiller avant la fin, ou vous perturber, l'un ou l'autre. Et le pied dira, « Parce que je ne suis pas la main, dit le petit pied, je ne suis pas la main, je ne fais pas partie du corps. » N'est-il donc pas du corps? Et si l'oreille dit, « Parce que je ne suis pas l'œil, n'appartient-elle pas pour autant au corps? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Si tout le corps était l'ouïe, où serait l'odorat? Mais maintenant, Dieu a disposé les membres, chacun d'eux dans le corps. Pourquoi? Comme il lui plaît, selon S. Vous êtes là où vous êtes dans le gouvernement de Dieu, dans le corps de Christ, parce que Dieu vous y a placé. Peu importe que vous soyez à Paduc, que vous ne soyez pas dans la salle en ce moment, que vous travailliez au siège, que vous soyez un visiteur, un ministre, un diacre, que vous serviez, quoi que ce soit, quoi que vous fassiez dans le corps de Christ, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a remarqué. Ce n'est pas parce qu'un événement fortuit s'est produit. C'est Dieu le Père qui vous a placé à cet endroit. Mais si vous avez été placé à cet endroit, vous avez une responsabilité à cet endroit. Ce n'est pas simplement un placement social fortuit, du genre, « Oh, je suis l'orteil. » Eh bien, je suis l'orteil, je suppose que je dois faire des choses d'orteil. Quelles que soient ces choses d'orteil. Ou la main, ou quoi que ce soit d'autre. Vous voyez, vous les imaginez en train de parler maintenant, n'est-ce pas? Oui. C'est là où Dieu vous place. Verset 24. Car nos membres les plus honorables n'ont pas besoin de cela, mais Dieu a composé le corps de manière harmonieuse, en accordant une plus grande distinction à ce membre qui en manquait. Verset 25. Et il n'y aura ni schisme, ni division, ni fragmentation dans le corps, mais les membres auront le même souci les uns des autres. Les choses ne peuvent pas être isolées, divisées, séparées. Le corps est connecté. Nous ne sommes pas dans une situation où nous avons un cousin It ou un Ting, qui est comme la main qui peut bouger toute seule. C'est une référence à la famille Adam. Vous devriez rire davantage parce que c'était drôle. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous ne pouvez pas avoir votre main détachée et continuer à travailler, ni aucune autre partie du corps. Pas de schisme. Verset 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Le reste de mon corps n'était pas compte quand je ne pouvais pas bouger mon cou. Si vous vous blessez à la hanche ou au dos, tout le corps est déséquilibré. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Verset 27. Or, vous êtes le corps de Christ et, individuellement, des membres. Frères, cette attention ne peut se limiter au week-end où nous nous réunissons pour un événement. Cela peut être une réunion sociale, cela peut être un jour saint. Peu importe ce que c'est. Mais lorsque nous nous réunissons en grand groupe, ce n'est pas le seul moment où nous devrions penser au corps du Christ. Surtout ceux d'entre nous qui ont l'occasion, le privilège en réalité, de pouvoir se réunir dans une congrégation, quelle que soit sa taille. Que vous lisiez dans une congrégation de 5, 15 ou 100 personnes, C'est un privilège particulier comparé à beaucoup de gens qui sont peut-être la seule personne de leur pays. C'est une énorme différence. Nous devrions penser à tous ces doigts et ces orteils éparpillés aux quatre coins du monde. Tournons-nous vers le livre de Malachie. Malachie, chapitre 3. Nous allons simplement lire un verset ici. Malachie chapitre 3, et nous allons lire le verset 16. 3, 16. Alors ceux qui craignaient le Seigneur se parlaient souvent les uns aux autres. Je vais le répéter, car je vous entends encore tourner les pages. Verset 16. Alors ceux qui craignaient le Seigneur se parlaient souvent les uns aux autres. Et que s'est-il passé à cause de cela, du fait qu'ils se parlaient souvent les uns aux autres? Et le Seigneur a prêté l'oreille et l'a entendu. Dieu y a prêté attention. Lorsque le peuple de Dieu tend la main, établit des liens et s'efforce de rester en communion les uns avec les autres, de maintenir l'unité de ce corps, Dieu le remarque. Il a prêté l'oreille et l'a entendu, et un livre de souvenirs a été écrit devant lui pour ceux qui craignaient le Seigneur et qui méditaient sur son nom. Dieu remarque quand vous et moi faisons des efforts. J'ai prêché un sermon il n'y a pas si longtemps sur qui nous sommes vraiment censés impressionner. C'est Dieu. Vous comprenez. Vous avez entendu le message. Mais il le remarque. Il remarque les petites choses, les petits exemples, la communion fraternelle, le service, les occasions cachées dont nous tirons parti. Et cela ne se limite pas au moment où nous sommes dans une pièce. C'est facile quand nous sommes dans une pièce. Ce sera super facile ce soir, quand vous serez assis face à un groupe de personnes, que vous partagerez le repas, que vous discuterez et que vous passerez un moment de communion, en parlant de vie spirituelle et de tout ce qui va avec. Ça, c'est facile. Mais ce n'est pas facile quand vous rentrez chez vous, ou quand vous célébrez des cultes seuls chez vous. Et c'est notre devoir, où que nous soyons dans le monde, de veiller à ce que ces personnes ne soient pas seules. C'est pour cela que nous disposons de tous les outils que nous sommes en train de créer. C'est pourquoi nous travaillons aussi vite que possible, quel que soit le temps qu'il nous reste à vivre en cette époque, pour procéder à une refonte majeure du site web. Nous sommes en plein milieu. Je dirais que nous en sommes à 60 ou 70%. Si je suis optimiste, 75. Avec un peu de chance, vous verrez le résultat d'ici un mois ou deux. Cela inclut de nouveaux services pour les membres, le transfert de TeamUp vers RCG, ainsi qu'une page MyRCG qui vous permettra d'avoir plus de contacts, de discuter et d'échanger des messages avec d'autres personnes, et de continuer à réduire les distances de manière à ce que nous puissions tous, où que nous soyons, être plus connectés. Mais pour l'instant, vous disposez d'outils comme TeamUp. Ce sera bien mieux, et ce sera le nôtre. Nous l'avons construit. Vous avez le club, les activités, les rencontres, les appels, les messages, la vidéo, les chats. Tous ces outils devraient nous aider, vous et moi, ainsi que nous tous à travers le monde, à rester en contact avec ceux qui sont plus isolés. Et quand nous le faisons, encore une fois, Dieu le remarque. C'est énorme, mes frères. Il comprend que la communication est un sacrifice, comme le dit Timothée, le fait que vous et moi nous efforcions de communiquer avec ceux qui sont isolés est un sacrifice. Nous faisons ce que Dieu attend de nous, et il le remarque. Passons au Deutéronome pour voir un exemple concret. C'est plus que de simples paroles. Deutéronome, chapitre 22. Deutéronome 22. Commençons par le tout début du livre, au verset 1. Deutéronome 22, verset 1. Si tu vois le bœuf ou la brebis de ton frère s'égarer, tu ne t'en détourneras pas. Tu devras, en tout état de cause, les ramener à ton frère. Alors, frère, je vous mets au défi, quand vous voyez la brebis ou le bœuf de quelqu'un d'autre s'égarer, allez le chercher. Bien sûr, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit du principe. À moins que vous n'ayez des moutons ou un bœuf. Si vous côtoyez des frères qui ont des moutons ou un bœuf, tant mieux pour vous, et allez chercher leur mouton ou leur bœuf quand il est dans le fossé. Si c'est le jour du sabbat, c'est un bœuf dans le fossé. Le public est difficile aujourd'hui. Ne te cache pas, et ramène-le-lui. Verset 2, c'est une précision importante, et si ton frère n'est pas près de toi, ou si tu ne le connais pas, ouah, ça commence vraiment à s'élargir, n'est-ce pas? Donc, ton frère, ta sœur, peu importe comment tu veux l'appeler, bœuf, mouton, ou quoi que ce soit d'autre, leurs besoins, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, un besoin, tu dois répondre à ce besoin. Aide à répondre à ce besoin. Fais ta part pour faire la différence. Et puis Dieu dit, non, non, je vais élargir le champ d'application. Peu m'importe qu'il soit proche ou lointain. Cela n'a pas d'importance. Ou bien, peu m'importe qu'il s'agisse d'un frère, et que tu ne le connaisses même pas. Alors tu l'emmèneras chez toi, et il restera avec toi jusqu'à ce que tes frères le recherchent, et tu le lui rendras. Pense au sacrifice. Bon, rendons ça concret, pas seulement drôle avec des bœufs. Donc, il y a ce bœuf dans un fossé. Tu vois ce bœuf. Tu vois l'étiquette. Tu te dis, oh, c'est un bœuf israélite, parce que l'oreille était marquée. Je ne sais pas comment ça marche, mais disons que tu sais que c'est un bœuf appartenant à un frère israélite, et tu ne vois personne aux alentours. Tu ne sais pas quoi en faire. Tu ne sais pas où l'emmener, mais tu veux respecter ce verset. Alors, tu prends ce bœuf et tu l'emmènes chez toi. Donc, quand tu prends ce bœuf et que tu le ramènes chez toi, ce n'est pas comme si, tu sais quoi, quelqu'un avait perdu son ballon de foot. Du coup, je vais ramener ce ballon de foot chez moi. Je vais le mettre dans le garage et le laisser là jusqu'à ce que j'entende, ding dong. Tu n'aurais pas trouvé un ballon de foot par hasard? Non, c'est un bœuf. C'est un animal. Il a besoin de manger. Il a besoin de paître. Il a besoin qu'on s'occupe de lui. Il fait des choses qui nécessitent d'être nettoyées. Vous venez de ramener chez vous quelque chose qui demande du travail jusqu'à ce que l'audit frère vienne le récupérer. Est-ce qu'on parle de jours, de semaines, de mois, d'années? Ça ne le dit pas. Ça dit simplement que vous ferez votre part et que vous vous occuperez de cet animal jusqu'à ce que la personne à qui il appartient se présente. Le passage pourrait continuer, et nous allons poursuivre la lecture ici, mais il n'est pas dit qu'ils vont te donner de l'argent. Continuons donc à lire pour avoir le contexte. Verset 3, tu feras de même pour son âne, pour ses vêtements et pour tout ce que ton frère a perdu. Dieu ne parle donc pas seulement du bœuf. Il s'agit de sa chemise, de sa nourriture, de ses vêtements, de tout ce qu'il a pu perdre et que tu as trouvé, tu feras de même. Tu ne dois pas te cacher. On ne peut pas passer devant le ballon de foot en se disant « Hé, c'est le ballon de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas vraiment ma responsabilité. » Ce n'est pas ainsi que pense un chrétien. Ce n'est pas ainsi que Dieu attend de nous que nous pensions lorsque nous pensons au corps du Christ. Tu ne dois pas te cacher. Verset 4. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber sur le chemin, tu ne te détourneras pas d'eux. Tu l'aideras certainement à les relever. Cela donc introduit un autre élément, n'est-ce pas? Tu ne verras pas l'âne ou le bœuf de ton frère tomber. C'est donc ce fameux bœuf dans le fossé, et il a donc besoin d'aide. Il ne peut pas sortir du fossé. Tu ne continues donc pas ton chemin. Je ne pense pas que la plupart d'entre nous feraient jamais cela. Je ne peux pas imaginer une situation où, disons, tu as un pneu crevé sur ta voiture, et tu connais la personne, c'est un frère, et ils sont sur Ambassador Drive, et il y a un pneu crevé. Vous n'allez pas rentrer de votre déjeuner en vous disant, « Oh, quel dommage !» Non, nous allons l'aider, mais dans le contexte de ce verset, cela implique beaucoup plus d'efforts, et voici ce que cela signifie. C'est plus important que les animaux. C'est plus important que les biens matériels. Ce sont les besoins, les faiblesses, l'absence, le découragement ou l'isolement. C'est tout ce dont votre frère a besoin. Nous ne devons jamais adopter un état d'esprit où nous pensons que quelqu'un d'autre s'en chargera. Ce n'est pas vraiment ma responsabilité. Non, frère, c'est notre responsabilité. C'est ce que signifie faire partie du corps du Christ et faire en sorte que le corps du Christ fonctionne correctement. Que vous soyez un coude, un orteil, un genou, peu importe ce que c'est, nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité comporte deux aspects. Donc, si j'ai un besoin, je dois aussi avoir l'humilité et la volonté d'accepter de l'aide. Tant de gens sont très désireux d'apporter leur aide. Beaucoup de membres du peuple de Dieu, presque à l'excès, iront essayer d'aider les gens. Mais à l'inverse, ces mêmes personnes ont tendance à être beaucoup plus difficiles à convaincre qu'elles ont besoin de recevoir de l'aide. Il y a donc les deux côtés de la médaille. Pour que cela fonctionne correctement, pour que les deux mains s'unissent comme elles le devraient, il faut les deux côtés de cette équation. Il faut être une personne disposée à offrir son aide. Et si vous en avez besoin, reconnaissez-le et demandez-la ou acceptez-la lorsqu'elle vous est proposée. Les deux côtés sont nécessaires. Vous devez être accessible, et les gens doivent être disposés à tendre la main à ceux qui sont accessibles. Hébreux, chapitre 3. Revenons au Nouveau Testament. Hébreux, chapitre 3. Il y a une grande responsabilité lorsque vous avez dit, « Oui, Christ, je veux faire partie de ton corps. » Lorsque nous étions assis dans l'eau lors du baptême et que nous avons décidé que c'était ainsi que nous voulions vivre notre vie, que nous voulions laisser mourir l'ancien homme, que nous acceptions le sacrifice du Christ pour que nos péchés soient pardonnés, pour pouvoir recevoir une partie de l'Esprit de Dieu. Cela s'accompagnait d'une grande responsabilité. Hébreux, chapitre 3, verset 12. Prenez garde, frères, qu'il n'y ait en aucun de vous un cœur mauvais et incrédule qui s'éloigne du Dieu vivant. Quelqu'un s'éloigne. Encore une fois, cela commence dans le cœur. À chaque fois, cela commence dans le cœur. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Comment diable peut-on savoir si quelqu'un a un cœur mauvais et incrédule alors que c'est quelque chose qui se passe dans le cœur? Eh bien, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ainsi, lorsque les gens ont des difficultés, ils en parlent. Lorsque nous sommes disposés à écouter dans un esprit d'aide, et non dans un esprit de commérage ou quoi que ce soit de ce genre, nous pourrions faire un détour. Nous pourrions consacrer tout un sermon au commérage et à ce que cela signifie. Mais ce n'est pas nécessaire. Nous pourrions dire que c'est dans l'esprit approprié de vouloir aider. Car si nous prêtons attention aux autres et au corps du Christ, nous comprenons la main, le coude, le cou, l'épaule et le plexus solaire, toutes ces parties ensemble. Nous savons ce qui se passe dans la vie des autres. Nous connaissons leurs luttes, leurs épreuves, leurs difficultés. Ainsi, nous pouvons savoir. Et puis le verset 13 nous dit, Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, tant qu'on peut dire aujourd'hui, de peur que l'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Joe Smith, c'est dur. Et je vois ce que tu traverses, mais tu te diriges vers un endroit sombre. Tu as vraiment besoin de parler à un pasteur. Ou encore, Sally, c'est difficile. Que puis-je faire pour t'aider? Parce que je comprends. Et savoir quand il faut dire, Sally, ce que tu fais nécessite l'intervention d'un pasteur. Oh, je ne pense pas vraiment. Tu dois aller parler à un pasteur, ou j'irai moi-même parler à un pasteur et lui demander de te parler. Je te dis cela par amour. Mais je te le dis parce que Dieu m'a demandé de nous exhorter les uns les autres chaque jour pour nous aider mutuellement. Ainsi, aucun de nous n'aura un cœur qui s'endurcisse. Frère, c'est une grande responsabilité que d'être intégré au corps de Christ. Et vous en faites partie. Alors, désolé, c'est trop tard. Une fois que vous avez accepté le sacrifice de Christ, cette responsabilité pèse sur nos épaules à tous. Le simple fait de s'éloigner peut être très discret, et c'est généralement le cas chez les gens. Cela vient du cœur. Les gens deviennent passifs. Ils ne s'impliquent plus. Ils se retirent. Ils ne viennent plus aux rencontres, ni aux études bibliques, ni aux événements, ni à quoi que ce soit. Et on ne peut pas tout faire. La vie, c'est la vie. On est occupé. Mais en même temps, si on y prête attention, on s'assure que les gens ne deviennent pas invisibles non plus. Ce week-end, c'est l'occasion de se retrouver, de discuter et de faire tout ce qui va avec. Rencontrez ceux à qui vous n'avez pas parlé depuis un moment. Profitez-en pour passer du temps même avec ceux que vous voyez souvent. Il y a aussi le risque de ne pas remarquer les personnes qui risquent de devenir invisibles. Nous devons donc faire un effort particulier pour nous assurer que cela n'arrive pas. Et puis, si vous êtes quelqu'un qui, comme moi, préfère rester un peu à l'écart et dans ses pensées, quand quelqu'un vient vous dire « Viens avec nous. Viens jouer à ce jeu. » Ou « Tu vas jouer au kickball parce que tout le monde y joue demain. » Non, à moins que tu ne risques de te blesser. Dans ce cas, ne joue pas au kickball demain, car on espère s'en sortir sans blessure, vu qu'on a souvent des blessures au volley ou au softball. Mais si tu peux frapper la balle sans te casser le cou ou te faire une entorse, alors tu peux jouer. Si quelqu'un dit « Je ne suis pas très doué en sport », je comprends. J'en arrive au point où je suis un peu nerveux à propos du mouvement de ma jambe et de ce que cela pourrait signifier le lendemain. Mais peu importe ce que c'est. Ne te laisse pas isoler, et reste vigilant. Ceux d'entre vous qui peuvent vraiment faire avancer cela, ne laissez pas les autres s'isoler non plus. Les deux côtés sont d'une importance cruciale. Bon, numéro 2. La conviction ne s'emprunte pas. La conviction ne s'emprunte pas. Les frères peuvent fortifier. Ils peuvent encourager. Ils peuvent avertir. Ils peuvent exhorter, comme le dit le mot. Encore une fois, le ministère peut corriger. Si vous avez un ami, il peut aussi vous corriger. Pas seulement le ministère. Il s'agit simplement d'amis proches. Ils peuvent s'inclure les uns les autres. Ils peuvent se soutenir mutuellement. Mais peu importe à quel point vous êtes inclusif, engagé ou connecté avec les autres, vous ne pouvez pas obéir à Dieu à leur place. C'est aussi simple que cela. Nous ne pouvons obéir à Dieu que pour nous-mêmes. Nous ne pouvons choisir de faire les choses que Dieu nous dit de faire que pour nous-mêmes. Chaque personne dans cette salle ou dans n'importe quelle autre salle à travers le monde doit choisir personnellement si elle va craindre Dieu, si elle va servir Dieu et si elle va persévérer dans ce mode de vie. La communion fraternelle peut aider à renforcer le zèle. Elle peut aider à trouver l'inspiration, mais elle ne peut pas remplacer la conviction personnelle. Et nous parlerons un peu de la manière de la renforcer si vous trouvez qu'elle est faible. Mais c'est individuel. C'est quelque chose qui, que nous soyons le doigt dans le corps, le coude, le genou ou n'importe quelle autre partie, relève de notre responsabilité et de notre responsabilité seule. Je ne peux pas aider ma femme à obéir à Dieu ni la forcer à obéir à Dieu. Elle ne peut pas faire de même pour moi. Je peux la soutenir. Tout comme les conjoints, les parents ou quelle que soit la dynamique relationnelle que vous entretenez avec les autres personnes présentes dans cette salle, vos amis, vous ne pouvez pas les forcer à obéir à Dieu. Savez-vous pourquoi vous ne le pouvez pas? Parce que Dieu ne force pas les gens à lui obéir. Il veut que ce soit un choix. Il veut que ce soit une décision. Car qu'est-ce que cela apporte? Cela forge un caractère saint et juste. Et il dit, « Je veux que vous forgiez un caractère saint et juste, car je veux que vous soyez comme Dieu. » Et cela n'arrive que lorsque nous disons, « Voici le chemin, voilà la mauvaise décision, voilà la bonne décision, voici ce que Dieu voudrait que je fasse. Je vais faire ce que Dieu voudrait que je fasse. » Et nous forgeons notre caractère. C'est le moment de vérité où nous nous demandons, vais-je servir et obéir à Dieu? Passons à Josué chapitre 24. Revenons à Josué, au début de votre Bible, au dernier chapitre. Josué chapitre 24, verset 14. Chapitre 24, verset 14. Je vous laisse le trouver. Le verset 14 dit, « Maintenant donc, craignez l'Éternel et servez-le avec sincérité et vérité. Rejetez les dieux que vos pères servaient de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si cela vous semble mauvais de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous servirait, soit les dieux que vos pères ont servi de l'autre côté du fleuve, soit les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais quant à moi, dit Josué, quant à moi et à ma maison, nous servirons le Seigneur. » Josué a montré l'exemple. Il n'a pas dit à la nation qui s'était rassemblée, alors que tous ces Israélites se trouvaient devant lui, « Nous, c'est-à-dire toute la nation d'Israël, nous servirons le Seigneur. » Il a dit, « Non, moi et ma maison, » sachant très bien qu'il n'avait qu'une influence limitée sur cette maison, nous servirons le Seigneur. Mais Israël devait choisir. Tout comme chacun d'entre nous dans cette salle, partout dans le monde, au sein de l'Église de Dieu, doit faire un choix. Et c'est parfois une décision difficile. Il y a ces moments où nous devons vraiment nous mettre à l'épreuve, nous tester, et où nous sommes contraints de prendre une décision difficile qui nous oblige à faire travailler ce muscle spirituel, qui met à l'épreuve cette conviction pour déterminer si nous allons le faire. Continuons, verset 16, et le peuple répondit et dit, « Loin de nous l'idée d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. Ô, célèbre dernière parole, Israël. » Verset 17, car c'est le Seigneur, notre Dieu, qui nous a fait sortir, nous et nos pères, du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui a accompli ses grands signes sous nos yeux, qui nous a préservés et qui nous a accompagnés tout au long du chemin que nous avons parcouru parmi tous les peuples par lesquels nous sommes passés. Comme ils ont vite oublié ce qu'ils avaient fait en quittant l'Égypte. Ils ont dit, nous n'allons pas nous débarrasser de Dieu. Regardez, il nous a aidés. Il se plaignait avant même d'avoir traversé la mer Rouge. Mais bon, nous voici avec Josué dans ce moment précis, qui est une leçon pour vous et moi. En un instant, nous pouvons avoir des convictions, être forts et enthousiastes, car à ce moment-là, cette nation était en feu, n'est-ce pas? Avec tout ce qui s'était passé, Josué était là pour galvaniser le peuple. Mais rapidement, cet enthousiasme, cette émotion peuvent changer s'il n'y a pas de conviction sous-jacente. Le récit se poursuit, le peuple qui est passé, verset 18, « Et le Seigneur chassa de devant nous tous les peuples, même les Amoréens qui habitaient le pays. C'est pourquoi nous servirons aussi le Seigneur, car il est notre Dieu. » Verset 19, « Et Josué dit au peuple, « Vous ne pouvez pas servir le Seigneur, car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera ni vos transgressions ni vos péchés. Il faut faire attention. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère, comme si on s'en débarrassait simplement parce que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, « Eh bien, il nous a protégés. Alors oui, nous servons le Seigneur. » Oh, c'est plus compliqué que ça, disait Josué. Il faut aller plus loin, et ce n'est pas une décision du genre, « Tu sais quoi, je vais mettre la chemise rouge aujourd'hui. » Non, c'est une décision plus profonde, mûrement réfléchie. Verset 20, « Si vous abandonnez le Seigneur et servez des dieux étrangers, alors il se détournera de vous, vous fera du mal et vous détruira. » Josué prenait cela très au sérieux. Il les avertissait qu'un engagement superficiel pourrait les détruire parce qu'ils ne prenaient pas cette décision au sérieux. Tout comme pour le baptême, c'est pourquoi nous vous conseillons de vous faire baptiser, car nous devons savoir, et vous devez savoir, et je dois savoir, en tant que personne qui vous baptise ou en tant que personne qui se fait baptiser, que vous ou moi, lorsque nous sommes baptisés, comprenons ce à quoi nous venons de nous engager. C'est tellement différent des églises du monde où l'on dit « Oh, je vais me faire baptiser. » Super. Venez devant. Les catholiques, un peu d'eau, et c'est fini. Ou alors il y en a d'autres qui ont ce genre de truc caché, mon préféré, je n'ai pas vraiment de bagage religieux, mais je l'ai vu à la télé. Et mes préférés, ce sont celles où il y a une grande scène. Donc si vous connaissez ça, vous me direz après ce que j'ai dit de faux, mais ensuite la plateforme recule, et il y a une piscine. Donc vous montez sur scène, vous faites ce que vous avez à faire, vous vous enthousiasmez, puis vous entrez dans la piscine et il procède au baptême, et tout se passe bien. Il n'y a pas d'accompagnement spirituel. C'est du spectacle. C'est ce que font les catholiques. C'est du spectacle. Ce n'est pas, si je fais ça de travers, je vais être consumé. Si j'abandonne ce mode de vie après m'être engagé, je pourrais finir dans les temps de feu. C'est la différence entre le christianisme mondain et le fait d'être un vrai chrétien. Il y a une grande récompense, et il y a le risque de graves conséquences. Les deux entrent en jeu. C'est pourquoi, pour poursuivre sur ce point, la conviction ne peut pas être empruntée. Verset 20, que nous venons de lire, « Et il en a fini avec vous. » Et au verset 21, « Et le peuple répondit à Josué, « Non, mais nous servirons le Seigneur. » Et Josué dit au peuple, « Je prends un peu de recul, Josué, car je vous ai tous observés et je n'ai pas été vraiment impressionné. » Il dit donc au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même que vous avez choisi le Seigneur pour le servir. » Et ils répondirent, « Oui, nous le sommes. Nous en sommes témoins. » Verset 23, « Maintenant donc, dit-il, ôtez les dieux étrangers qui sont parmi vous et inclinez votre cœur vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. » Et le peuple répondit à Josué, « C'est le Seigneur, notre Dieu, que nous servirons, et c'est à sa voix que nous obéirons. » Frères, c'est le niveau de conviction que vous et moi devrions avoir. Nous ne servons que sa voix. L'Église, le ministère, le fait d'être ici aujourd'hui pour prêcher un sermon, les piliers, les magazines Real Proofs, l'ambassadeur Youth, Toutes elles écrites que nous fournissons peuvent vous enseigner et vous aider à vous orienter dans cette direction, vous guider vers la volonté de Dieu, son dessein, ses doctrines, le sens des prophéties. Tout cela est lié. Mais en fin de compte, je ne peux pas vous forcer à obéir. Je pourrais crier de toutes mes forces, travailler aussi dur que possible, mais je ne peux pas vous forcer, tout comme vous ne pouvez pas me forcer à obéir à Dieu. C'est votre choix, votre décision, votre chemin. Vous êtes le tonneau qui repose sur son propre fond. Vous travaillez à votre propre salut. Tout le monde autour de vous doit vous soutenir dans cela. Le ministère doit vous soutenir dans cela. L'Église de Dieu doit vous soutenir dans cela, le corps du Christ. Mais en fin de compte, les décisions nous appartiennent. Passons à l'Épître aux Philippiens. Nous allons nous reporter au Nouveau Testament, au chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens. Philippiens 2, verset 12. Philippiens 2, 12. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. J'y ai fait référence il y a un instant. Nous devons travailler à notre propre salut. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est l'un des versets les plus inspirants de la Bible, car parfois, mes frères, nous n'avons tout simplement pas la volonté, n'est-ce pas? Vous voulez agir. C'est facile de penser aux choses que nous voulons faire. Et si vous êtes, prenons un exemple concret, vous pouvez le concrétiser. Je suis actuellement dans une phase bonne santé et je fais tout un tas de choses pour améliorer ma santé et être en meilleure forme. Et je vieillis, et j'ai un enfant de 8 ans. Donc, à un certain moment, je ne veux pas perdre un bras de fer. Alors je repousse ça le plus longtemps possible. Je veux donc faire ce qu'il faut pour être en meilleure santé. Ne pas boire d'alcool pendant la semaine, faire de l'exercice, etc. Chaque situation est différente, mais je veux faire toutes ces choses. Est-ce que j'ai toujours la volonté de les faire? Pour employer un peu de français, comme ci, comme ça. Mais quand il s'agit de choses spirituelles, Dieu dit, non, je te donnerai aussi la volonté. Si tu me le demandes, je te donnerai à la fois la volonté et la capacité d'accomplir ce qui lui plaît. Par le Christ, tout est possible, dit la Bible, et voici comment, parce que nous pouvons à la fois recevoir la volonté de faire ces choses et la capacité de les accomplir. Mais encore une fois, c'est individuel. Vous voyez, c'est comme cela est décrit ici, c'est individuel, pas seulement en ma présence, dit Paul, mais quand je ne suis pas là, encore plus quand je ne suis pas là, en mon absence, mais davantage en mon absence, parce que vous savez pourquoi. Nous nous comportons tous beaucoup mieux quand une figure d'autorité est présente. Peu importe ce que c'est. Peu importe que ce soit le ministère, votre patron ou vos parents. Je me tiens toujours bien en présence de ma mère, et elle est à peine plus grande que ça. C'est tout simplement naturel pour nous de faire cela quand quelqu'un est là, et qu'il s'agit d'une figure d'autorité. Mais quand elle n'est pas là, que faisons-nous? Car cela révèle qui nous sommes. Si nous obéissons quand ceux qui nous entourent disent « Non, 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 jouons au jeu militaire. Non, tu ne te tiens pas droit, tu dois serrer les pieds. Je n'ai jamais été dans l'armée non plus, ça se voit, car ce sont les deux choses que l'on fait. Mais quand ils ne sont pas là, est-ce qu'on se tient toujours droit? Est-ce qu'on fait toujours ce qu'on devrait faire? D'autant plus que c'est notre propre salut qui compte. Dans ces moments de calme, cela nous en dit long. Verset 14. Faites tout sans murmure ni dispute. Oh, je dois aller déplacer les tables. Oh, il faut qu'on installe la cuisine. Non, on ne le fait pas sans murmure. On se réjouit de pouvoir le faire sans murmure, sans dispute. Et les disputes peuvent être difficiles, car j'ai vu des dames en cuisine, et il y a 7 à 8 façons différentes de couper le fromage. Et si vous avez une façon particulière, désolé, mesdames, c'est un exemple qui m'est venu à l'esprit. Je pourrais faire la même chose avec les hommes, mais nous avons déjà commencé avec les femmes, et je n'ai pas le temps de passer à l'autre sujet. Et si vous avez une façon particulière de couper le fromage et que ces autres femmes, surtout si elles sont plus jeunes, parce qu'elles manquent d'expérience en la matière, font les choses différemment, leur façon de faire est considérée comme mauvaise. C'est donc très facile de transformer ça en une dispute. C'est un exemple idiot. Si vous vous êtes plainte de la façon dont quelqu'un coupe le fromage, je suis désolé, mais c'est idiot. Mais ça peut causer des disputes, n'est-ce pas? Ça peut causer des murmures. Très bien, je vais couper le fromage comme elle veut que je le coupe. Pardon. Verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, fils de Dieu, sans reproche au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez tous comme des lumières dans le monde, ou plutôt, en proclamant la parole de vie, afin que je puisse me réjouir au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Une obéissance fidèle prouve que le ministère vous enseigne. Oh, c'est passionnant, quand on travaille avec le peuple de Dieu, de pouvoir voir cela. Je l'ai dit tant de fois au ministère au fil des ans, mais l'une des choses les plus passionnantes à faire quand on travaille avec le peuple de Dieu, et qu'on travaille les uns avec les autres, donc vous comprenez cela dans une certaine mesure, c'est quand on voit quelqu'un lutter avec quelque chose, en tant que ministre, on l'aide parfois simplement en l'écoutant, et puis on voit cette personne surmonter ce à quoi elle travaillait. Oh, c'est la plus belle chose au monde. Et vous l'avez probablement vu entre vous, avec vos amis, votre famille et d'autres personnes. Vous voyez cela. C'est la preuve que travailler ensemble au sein du corps de Christ a un sens, qu'aider les uns les autres, vivre en communion et être liés les uns aux autres, tout cela a un sens. Mais en fin de compte, tout revient aux décisions individuelles que nous prenons. Et mes frères, nous avons tant de moyens de renforcer notre conviction. Vous venez d'entendre un sermon la semaine dernière sur les outils de la croissance chrétienne. Ce sont des outils assez importants pour renforcer nos convictions. Nous vivons dans la seule organisation, ou au sein de la seule organisation sur Terre, qui détient toute la vérité de Dieu. Sommes-nous encore en train d'essayer de comprendre certaines choses? Bien sûr que oui, car nous voyons comme dans un miroir, de manière obscure. La prophétie est-elle parfaitement claire? Bien sûr que non, car la perfection n'est pas encore venue, donc nous ne voyons pas encore tout. Mais nous avons tellement plus de compréhension que n'importe quelle organisation sur Terre. Et je pourrais prendre 15 minutes maintenant pour passer en revue tout ce que nous avons appris au cours des 10 dernières années. Cela devrait renforcer notre conviction. Comprendre le plan de Dieu. Cela devrait renforcer notre conviction. Comprendre toutes les doctrines. Et lorsque vous sentez vos convictions vaciller, c'est là qu'il faut s'arrêter, revenir tout au début et tout vérifier à nouveau. L'Église, la Bible, la parole de Dieu, puis tout reconstruire. Si vous faites cela de temps en temps, vos fondements ne bougeront jamais. Votre conviction deviendra de plus en plus forte, car plus nous vérifions les bases, plus nous vérifions les fondements. Alors, tout ce qui est construit par-dessus est différent. Eh bien, parce que je connais les fondements. Les fondements sont solides. Revenez aux bases si vous sentez que votre conviction faiblit. Mais voici le problème avec la conviction. Tout comme lorsque vous êtes devant les gens, nous avons tendance à être plus convaincus ou plus sérieux, selon les circonstances. Une fois que la conviction est en nous, qu'elle est personnelle et sérieuse, et que nous la prenons ainsi, Dieu doit alors la mettre à l'épreuve. Et quoi qu'il arrive, nous serons mis à l'épreuve. Et parfois, ces épreuves surviendront alors qu'il n'y a personne autour de vous pour vous aider à rester fort. Troisième point, la force doit tenir bon quand personne n'est à nos côtés. Ni votre ami, ni votre conjoint, ni votre frère ou sœur, ni quelqu'un pour vous soutenir, ni votre pasteur. Nous devons tenir bon quand personne n'est visible pour nous soutenir. Le peuple de Dieu peut se fortifier mutuellement, peut nous édifier, mais Dieu vous mettra à l'épreuve dans un moment de solitude, car il va vous donner, à vous et à moi, les clés de l'univers, si vous voulez, pour faire partie de la famille de Dieu. Et on ne donne pas les clés à un adolescent de 16 ans chez soi avant qu'il ait été testé et éprouvé, pour savoir s'il va avoir un accident ou s'il sait conduire. Sans parler de la vie éternelle. Il n'y a donc rien que vous et moi puissions faire pour éviter l'épreuve. Absolument rien. Cela va arriver, et Dieu nous mettra à l'épreuve. Mais si nous faisons tout le travail à l'avance, nous serons mieux placés pour réussir cette épreuve, tout comme les élèves qui étudient pour leur permis et lisent les manuels. Je me souviens que j'étais tellement impatient d'obtenir mon permis, et j'ai tendance à faire des recherches approfondies sur tout. Et c'était à l'époque où Internet n'existait pas encore. Je ne pouvais donc me procurer que des livres à la bibliothèque. C'est un endroit où l'on va pour trouver ses livres physiques. J'ai donc pris des livres sur la conduite, je les ai lus, puis j'ai lu le manuel de la voiture, ce qui, avec le recul, ne vous aide pas vraiment à conduire. Mais je voulais vraiment réussir mon permis de débutant. Et j'ai lu le manuel du débutant, ce qui était très décourageant, car c'était une petite brochure. Je me suis dit, c'est comme ça qu'ils enseignent aux gens. Mais j'ai donc pris des livres à la bibliothèque, j'ai pris la brochure, j'ai pris les manuels, et j'ai lu, et lu, et lu, et lu, parce que je voulais être prêt. Frères et sœurs, nous vivons le christianisme pour être prêts pour l'épreuve. Nous venons aux réunions, nous nous édifions les uns les autres, nous nous fortifions mutuellement, nous marchons sur ce chemin de vie, afin d'être prêts pour l'épreuve. Ainsi, nous le réussissons et devenons Dieu. C'est pour cela que vous êtes ici, pour devenir Dieu. N'oubliez jamais que la barre est très haute. Et une barre aussi haute, Dieu ne vous la donnera pas simplement parce que vous venez au service chaque sabbat, parce que vous payez la dîme à Dieu, ou parce que vous observez les jours saints, ou quelles que soient les manifestations superficielles d'obéissance. Si vous ne pratiquez pas ces manifestations superficielles d'obéissance, si vous ne payez pas la dîme à Dieu, si vous n'observez pas le sabbat, non, vous devez changer rapidement. Car cela vous permet de rester un serviteur inutile. Pour être admis dans le royaume de Dieu, pour être admis à devenir Dieu, la barre est plus haute. Et vous et moi serons mis à l'épreuve avant qu'elle ne nous soit donnée. Nous serons mis à l'épreuve. La conviction doit être prouvée, et vous et moi ne pouvons pas le faire à la place de quelqu'un d'autre. Vous serez peut-être avec des gens lorsque vous serez mis à l'épreuve. Ce serait formidable. Vous vous sentirez peut-être fort lorsque vous serez entouré d'autres personnes. Il n'y a rien de mal à essayer de traverser une situation avec votre conjoint ou un ami, et qui se trouve sur le chemin de Dieu. Il n'y a rien de mal à cela. Vous n'avez pas besoin de créer des circonstances où vous vous dites, « Bon, je vais affronter cette personne, et elle va me causer des problèmes et être difficile. J'ai donc besoin que tu restes à la maison. Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit. Je vais m'en occuper tout seul. Non, nous n'avons pas besoin de créer cette situation. C'est Dieu qui créera la situation. Donc, si vous avez quelqu'un pour vous soutenir, tant mieux. Mais soyez prêt pour les deux cas de figure. Car il y aura des moments où vous serez seul, où le soutien ne sera pas visible. Passons au chapitre 6 de Daniel. Daniel 6. Au verset 6, Daniel chapitre 6, verset 6. Alors ses présidents et ses princes se réunirent auprès du roi et lui dirent, « Roi Darius, vivez éternellement. » C'est un peu de la flagornerie là. Tous les présidents du royaume, les gouverneurs, les princes, les conseillers et les capitaines se sont concertés pour établir un édit royal et en faire un décret irrévocable. Ils flattent Darius, afin que quiconque adressera une requête à un dieu ou à un homme pendant 30 jours, à l'exception du roi, soit jeté dans la fosse lion. Donc une condamnation à mort. Maintenant, ô roi, promulgue ce décret et signe l'acte, et il ne pourra être modifié selon les lois des Mèdes et des Perses, qui ne changent ni ne s'altèrent. Darius se dit, c'est la meilleure chose qui soit. Et rappelez-vous, il était un admirateur de Daniel, sans se rendre compte où cela allait mener. Darius signa le document et le décret. Et puis, au verset 10, que fit Daniel? Il savait ce qui s'était passé. Il savait ce qui s'était passé. Il connaissait les conséquences. Et que fit-il? Verset 10. Lorsque Daniel sut que l'écriture avait été signée, il n'agissait donc pas à l'aveuglette, il se rendit dans sa maison, les fenêtres de sa chambre étant ouvertes en direction de Jérusalem. Il ne le cachait pas. Il s'agenouillait trois fois par jour et priait et rendait grâce à Dieu comme il le faisait quatre fois. Plusieurs éléments sont importants dans ce passage. Premièrement, prier plusieurs fois par jour, rechercher Dieu quand on en a besoin, ne pas cacher ce fait. Bien sûr, nous ne nous promenons pas en disant « Je prie Dieu ». Non, nous ne faisons pas cela. Nous ne faisons pas comme les pharisiens. Nous prions en privé dans notre chambre, mais lui n'avait pas peur d'être vu en train de prier. Et la phrase la plus importante de tout ce récit, c'est qu'il l'a fait à quatre reprises. C'est exactement ce qu'a fait Daniel. Lorsque l'épreuve est arrivée, il n'a pas fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il priait chaque jour, sans relâche. Il s'y exerçait, le pratiquait, le vivait et le mettait en œuvre. Ainsi, lorsque l'épreuve est venue, il n'a eu qu'à faire ce qu'il faisait habituellement. Il est entré dans sa maison, il a suivi son habitude, et sa constance dans la vie privée l'a préparé à ce qui est devenu un courage très public. Lorsque nous avons une conviction ferme, frère, parce que nous faisons ce que nous devons faire, nous aurons de la force lorsque nous serons mis à l'épreuve. Une conviction ferme, parce que nous faisons ce que nous devons faire, nous donnera de la force lorsque nous serons mis à l'épreuve. Passons au premier livre des rois, chapitre 18. Premier livre des rois, chapitre 18, verset 17. Premier livre des rois, chapitre 18, verset 17, et il arriva, quand Akab vit Élie, qu'Achab lui dit, « Es-tu celui qui trouble Israël ? Es-tu le problème, Élie ?» Et il répondit et dit, « Je n'ai pas troublé Israël, mais toi et la maison de ton père, vous avez abandonné les commandements de votre Seigneur, et vous avez suivi les Baals. » Élie a identifié qui était le problème. Verset 19, « Maintenant donc, on voit rassembler tout Israël pour moi au mont Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes des Achéra qui mangent à la table de Jézabel. Alors Achab envoya vers les enfants d'Israël et rassembla les prophètes au mont Carmel. Élie s'avança vers le peuple et dit, « Jusqu'à quand allez-vous tergiverser ainsi, mes amis ? » Ou, comme le dit la Bible, « Jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux opinions ? Pourquoi êtes-vous si indécis ?» Ce n'est pas une décision difficile. Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, alors suivez-le. Cessez d'être hypocrite. Et que fait le peuple ? Nous suivrons Dieu. Et le peuple lui répondit, pas un mot. Non. Le silence n'est pas la force. L'action est la force. La conviction est la force. L'obéissance et la mise en pratique de la voix de Dieu forgent la force. Encore un point à ce sujet, Luc 22. Nous terminerons ce point par l'exemple du Christ dans Luc 22. Nous voyons ici un schéma récurrent, et nous le verrons aussi avec le Christ. Ce schéma, c'est la prière. À maintes reprises, lorsque les épreuves surviennent, nous prions. Nous étudions, et nous prions, ou jeûnons, selon la gravité ou la difficulté de l'épreuve. Luc 22, verset 39. Et il sortit, verset 39 de Luc 22, et il sortit et se rendit, comme à son habitude, encore une fois, comme il le faisait habituellement, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Le Christ avait déjà une habitude bien établie, n'est-ce pas ? Ce sont ces petites phrases qui sont glissées là. C'est ce qu'il faisait. C'était une de ses habitudes. Verset 40, « Et quand il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, « Priez afin de ne pas entrer en tentation. » Waouh, c'était une préfiguration de ce qui allait leur arriver. Et ensuite, qu'a-t-il fait ? Il s'est retiré, à environ une pierre de distance. Donc, si vous preniez une pierre et la lanciez, selon la distance, pouvez-vous la lancer à 100 mètres ? Pouvez-vous la lancer à 50 mètres ? Peu importe la situation. Mais c'est une bonne distance pour lancer une pierre. Il n'aurait donc pas pu l'entendre, et il s'agenouilla et pria, disant, « Père, si tu le veux, éloignez de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite, et non la mienne. » Frère, c'est là la conviction fondamentale de ce que signifie être chrétien. Tout ce que vous et moi faisons, le fondement de notre conviction chrétienne, c'est de rechercher et d'accomplir la volonté de Dieu. Le plus difficile pour un chrétien, c'est de discerner quelle est la volonté de Dieu. Pas quand il s'agit du sabbat ou des viandes pures et impures, mais quand il s'agit de décisions personnelles dans votre vie et dans la mienne qui ne sont pas aussi tranchées que travailler le jour du sabbat, manger un sandwich au jambon. Quand il ne s'agit pas de ces choses-là, mais qu'il s'agit d'appliquer des principes divins, c'est là que chercher la volonté de Dieu peut être plus difficile. Et parfois, vous avez le temps de demander conseil. Cela peut venir du ministère, quel qu'il soit, de la parole de Dieu, mais parfois vous ne l'avez pas. Et dans ces moments-là, vous êtes parfois seul, ou du moins visiblement seul. C'est là que c'est plus difficile. Verset 43, « Et un ange lui apparut du ciel, le fortifiant. Et, en agonie, il priait avec plus de ferveur. Sa sueur était abondante, comme de grosses gouttes de sang tombant sur le sol. C'était dur. Il savait ce qui allait se passer. Et quand il se leva de sa prière, il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis. Petit rire, ça fait mal, n'est-ce pas ? Le Christ priait si intensément qu'il saignait, et quand il revint, les disciples, alors qu'il venait juste de dire, « Nous ne trébucherons jamais, nous ne ferons rien de mal », ronflait. Mettez donc cela dans le contexte de ce que cela représentait pour le Christ. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous, Levez-vous et priez, de peur que vous ne tombiez en tentation. Le Christ avait déjà prié pour eux. Il voulait qu'ils fassent la différence. Il voulait qu'ils prient pour eux-mêmes, car ils savaient ce qui allait se passer. Frères, se tenir seul comporte un danger. Savoir qu'il faut marcher en privé, personnellement, et se tenir seul dans certaines situations, et être capable de faire preuve de conviction. La conviction pieuse n'est pas de l'indépendance. C'est une chose très différente. Ce n'est pas de l'entêtement ni un détachement de l'Église de Dieu ou de son gouvernement. Pour être un serviteur de Dieu, vous et moi devons être suffisamment stables, suffisamment convaincus, suffisamment ancrés pour tenir seuls sans développer un esprit d'indépendance. C'est une question d'équilibre. Vous vous souvenez? Nous avons examiné ces deux fossés tout au début de ce message. Tout ce que vous et moi devons faire en tant que chrétiens consiste à trouver cet équilibre. Nous devons faire preuve d'individualisme dans notre volonté d'être convaincus. Rappelez-vous, nous travaillons à notre propre salut avec crainte et tremblement, mais nous ne pouvons pas être indépendants. Rester ferme pour Dieu n'est pas la même chose que se tenir à l'écart du corps de Christ. C'est pourquoi vous et moi devons nous tenir seuls, comme l'indique le titre de ce message, mais pas à l'écart. C'est pourquoi des choses comme les rencontres sociales sont importantes, car nous sommes ensemble, nous sommes unis. Regardons quelques versets des Proverbes. Proverbes, chapitre 11. Proverbes, chapitre 11. C'est un passage facile à mal interpréter. Et je suppose que je devrais dire, c'est le point numéro 4. Maintenant que vous avez déjà noté le verset. Donc, juste au-dessus de ce verset, point numéro 4, la conviction n'est pas l'indépendance. Donc, point numéro 4, la conviction n'est pas l'indépendance. Maintenant, Proverbe chapitre 11, verset 14. Ce sont des versets très simples, mais ils vont nous servir de base, sans conseil. Le peuple tombe, mais dans la multitude des conseillers, il y a la sécurité. Nous appliquons cela dans notre travail de temps de façon différente. Si quelqu'un choisit de se tenir seul ou à l'écart, il se prépare à l'échec. Il s'isole. Il ne cherche pas de conseil. Lorsque nous prenons des décisions importantes dans notre vie, surtout sur le plan spirituel, sans conseil, vous échouerez. C'est tout. Point final. Si vous décidez, sans conseil, que ce n'est pas l'Église de Dieu, et cela ne compte pas si vous priez à ce sujet, car vous devriez prier à ce sujet, et il ne s'agit pas d'étudier la parole de Dieu, car vous devriez étudier la parole de Dieu. Mais si vous prenez une décision comme celle-là, à savoir que ce n'est pas l'Église de Dieu, sans conseil, vous échouerez. Vous échouerez parce que les gens qui partent prennent presque toujours cette décision sans conseil, alors qu'il y a ce proverbe qui dit quel en sera le résultat. Passons au chapitre 12 des Proverbes, et nous n'allons en examiner que quelques-uns ici pour illustrer ce point. Proverbes, chapitre 12, verset 15. 12, 15. La voie de l'insensé est droite à ses propres yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Frère, l'orgueil ou la confiance en soi peuvent se faire passer pour une conviction. Si nous sommes orgueilleux, si nous nous croyons sans faute, si nous débordons de confiance en nous-mêmes, et non d'une confiance en Dieu, cela peut très bien ressembler à de la conviction. Mais Dieu dit, non, 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 non. Si tu ne cherches pas conseil dans ces situations, tu n'es pas sage. Tu agis comme un insensé. Tu t'appuies sur ta propre intelligence, disent d'autres versets. Ensuite, Proverbe 18, verset 1. Je vais d'abord lire cela dans la version King James, Puis nous essaierons une autre traduction, car celle de la King James est horrible. Donc, verset 1 de Proverbe 18, par le désir, ce qui signifie l'envie, un homme qui s'est isolé cherche et s'oppose à toute sagesse. Ce n'est pas seulement ce mot qui est mauvais, c'est toute la traduction qui est mauvaise. La New American Standard traduit cela ainsi, « Celui qui se sépare cherche ses propres désirs. Il se querelle contre toute sagesse saine. » Je vais le répéter si vous ne pouvez pas lire ce qui est devant vous, « Celui qui se sépare cherche ses propres désirs. Il se querelle contre toute sagesse. » Lorsque nous nous isolons, lorsque nous ne cherchons pas conseil, lorsque nous nous appuyons sur notre propre compréhension, nous disons, nous avons compris ce mode de vie, nous ne recherchons pas la volonté de Dieu. Un esprit qui s'isole devient un esprit dangereux. C'est de l'isolement. C'est ainsi que pense le diable. Nous ne devrions jamais laisser nos convictions personnelles se transformer en autonomie ou en autogouvernance. Nous ne pouvons pas nous gouverner nous-mêmes. Nous allons gérer nos vies, mais spirituellement, nous ne sommes pas autorisés à nous gouverner nous-mêmes. Nous sommes censés obéir à Dieu et suivre ce qu'il nous dit de faire, rechercher sa volonté, et nous devons diriger l'ensemble de notre vie en général, mais nous ne sommes pas le gouvernement de nous-mêmes. Nous sommes sous le gouvernement de Dieu. Passons à la première épître de Pierre, chapitre 5. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 5. Première épître de Pierre, 5, 5. Vous y êtes? Arrêtez-vous. De même. Verset 5. Vous, les plus jeunes, soumettez-vous aux anciens. Oui, soyez tous soumis les uns aux autres, et revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous devons nous revêtir d'humilité. Vous devez être disposés à accepter les commentaires, les conseils, les avertissements, les exhortations, les instructions et l'aide des personnes qui vous entourent. Ce n'est pas parce que je suis un ancien que je n'apprends pas de ceux qui ne le sont pas ou que je ne les écoute pas, et vice-versa. Nous apprenons de ceux qui nous entourent, de leur exemple, de leur aide, de leurs conseils, car nous devrions tous être revêtus d'humilité. Et si nous ne le sommes pas, alors Dieu nous résiste. Il accorde sa grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. C'est pourquoi l'orgueil, l'autosuffisance, le fait de s'appuyer sur notre propre compréhension signifie que nous ne nous appuyons pas sur Dieu, que nous ne recherchons pas la volonté de Dieu, et Dieu dit, « Je ne peux pas travailler avec toi. Je ne peux pas. » En tant que pasteur, si quelqu'un est plein d'autosatisfaction ou d'orgueil, nous pouvons le lui dire, « Mais savez-vous ce qui se passe souvent ? Je n'arrive pas à le toucher. » Peu importe ma solidité spirituelle ou ma compréhension, ou les versets ou exemples que j'utilise, je n'arrive pas à le toucher. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il ne peut pas le toucher. Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, alors comment un ministre pourrait-il toucher quelqu'un qui est plein d'orgueil? C'est pourquoi il est si important que vous et moi nous débarrassions de l'orgueil et que nous nous réveillions d'humilité. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment opportun, en lui remettant tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobre, soyez vigilant, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont endurées par vos frères dans le monde. Ce n'est pas une vie facile à mener. Nous devons remettre nos soucis, nos préoccupations, toutes ces choses qui sont des luttes, nous devons les remettre à Dieu. Il est notre force. C'est lui qui nous fortifie, qui nous donne ce dont nous avons besoin pour pouvoir survivre. Et lorsque vous traversez une épreuve, ce verset le dit, sachant que les mêmes souffrances sont infligées à vos frères dans le monde. Vous et moi sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde. Et si vous êtes en Australie, en Jamaïque, aux Philippines, au Pérou, au Royaume-Uni, et je pourrais continuer à citer des pays, car nous sommes présents dans environ 73 pays à travers le monde où l'Église de Dieu compte des membres, ces membres ont les mêmes, ou je pourrais dire que n'importe qui dans le monde occidental, tandis que les membres qui ne sont pas dans le monde occidental ont des épreuves plus dures. Donc, quoi que vous traversiez, souvenez-vous qu'il y a d'autres personnes dans le monde qui traversent aussi des épreuves, car, en tant que corps du Christ, nous pleurons ensemble, nous souffrons ensemble et nous nous réjouissons ensemble. Votre épreuve n'est pas isolée. Vos expériences ne sont pas isolées. Vous êtes un rouage dans l'engrenage du corps du Christ. Et parfois c'est difficile, mais vous pouvez être fortifié en sachant que d'autres ont traversé des épreuves et qu'ils y ont survécu. Et si l'on remonte 200 ans en arrière, voire 1000 ans, des gens ont subi des épreuves telles qu'être plongés dans l'huile, écorchés vifs et brûlés sur le bûcher à cause de ce mode de vie. Donc, si vous traversez une épreuve, cela n'enlève rien à cette épreuve, mais souvenez-vous toujours que cela pourrait certainement être pire, et que cela peut être pire pour des personnes vivant aujourd'hui dans l'Église de Dieu. Ainsi, la conviction n'est pas synonyme d'indépendance. Et enfin, numéro 5. Vous vous souvenez que j'ai dit que parfois vous seriez seul, et que vous m'avez entendu me corriger encore et encore. Vous voyez sans doute où je veux en venir, parfois, vous êtes visiblement seul. Numéro 5. Dieu est avec ceux qui sont avec lui. Numéro 5. Dieu est avec ceux qui sont avec lui. Frères, nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes simplement, parfois, visiblement seuls. Personne ne peut affirmer cela. Personne ne peut avoir la confiance que vous et moi avons, sachant que ceci est le corps du Christ, que c'est la véritable Église, que Dieu vous soutient, que vous ne traverserez jamais quelque chose que vous ne pouvez pas gérer. Il n'y a aucun autre endroit sur terre où nous pouvons avoir cette confiance que le Christ et Dieu sont avec nous. Par le Christ, tout est possible. Il peut nous donner la volonté et la capacité d'agir. Il n'y a rien que vous ne puissiez surmonter parmi ce qui vous a été donné, sinon Dieu ne vous l'aurait jamais donné. C'est aussi simple que cela. Si vous traversez une épreuve, vous pouvez la surmonter. Sinon vous ne la traverseriez pas. C'est la confiance que nous avons en le Dieu de la Bible. C'est la confiance que nous devrions avoir en raison de celui que nous servons. Encore une fois, si vous traversez une épreuve dans cette salle ou n'importe où dans le monde, vous pouvez la surmonter, car sinon, Dieu ne vous aurait pas donné cette épreuve. Il ne l'aurait pas permis, car il savait que cela vous briserait. Vous n'étiez pas prêt pour cela. Mais si vous y êtes confronté, vous pouvez la surmonter. Passons au chapitre 16 de Jean. Jean chapitre 16, verset 29. Ses disciples lui dirent, « Voici, maintenant tu parles clairement, et tu ne dis pas de proverbes. Maintenant, nous sommes sûrs que tu sais toutes choses, et que tu n'as besoin que personne ne t'interroge. Par cela, nous croyons que tu es venu de Dieu, que tu es venu du Père. » Les disciples se sentaient donc vraiment forts et confiants à ce moment-là, mais le Christ savait qu'ils allaient se disperser. Il le savait. Verset 31. Jésus leur répondit, « Croyez-vous donc maintenant ? » Voyez-vous l'ironie dans la voix du Christ lorsqu'il a dit cela ? Il savait ce qui allait se passer. Verset 32. Voici, l'heure vient, oui, elle est déjà venue, où vous serez dispersés. Chacun ira chez lui, et vous me laisserez seul. Pourtant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Il savait qu'il serait seul. Il savait qu'il se trouverait dans une situation où il serait physiquement, visiblement seul. Mais le Christ, et nous tous devrions en faire autant, a la confiance, la certitude et l'assurance que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Nous ne sommes jamais abandonnés. Verset 33, « Je vous ai dit ces choses. » Pourquoi a-t-il dit cela ? Afin que vous et moi ayons la paix. Frère, si vous traversez une épreuve, recherchez cette paix. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Passons au chapitre 4 de la deuxième épître à Timothée. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, le dernier passage ici. Verset 16. 2 Timothée 4, 16. Pour conclure. Lors de ma première. Verset 16. Lors de ma première défense, personne ne m'a soutenu, mais tous m'ont abandonné. Je prie Dieu pour que cela ne leur soit pas imputé. Quelle attitude pleine de pardon il avait. Il ne voulait pas qu'on leur reproche de ne pas l'avoir aidé. Verset 17. Cependant, le Seigneur m'a soutenu. Il écoutait le Christ. Il comprenait et était un disciple, et il m'a fortifié afin que, par moi, la prédication soit pleinement connue, pour que tous les païens entendent que j'ai été délivré de la gueule du lion. Verset 18. Et le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me préservera pour son royaume céleste, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il n'avait pas d'amertume. Il n'était pas en colère parce que les gens ne l'avaient pas aidé. Non. Il a dit, ne leur en tenez pas rigueur. J'ai vu l'exemple de Jésus-Christ. J'ai vu ce qu'il a enduré. J'ai vu son attitude. Et Paul, comme nous, devrait revêtir cette même attitude et dire, non. Je sais que le Seigneur Dieu est avec moi. Qui peut être contre moi? Qui peut s'opposer à moi? Qui peut me combattre? Qui peut remettre en cause ma conviction? Je ne suis jamais vraiment seul, mes frères. Aucun de nous ne l'est. Parfois, nous nous sentons seuls. Parfois, nous sommes visiblement seuls. Parfois, nous pouvons être seuls en apparence, mais aucun de nous n'est seul spirituellement. Nous avons tous la puissance de Dieu. Nous avons tous le Christ, le Saint-Esprit, en nous, donc nous ne sommes jamais vraiment seuls. Demain, vous et moi aurons l'occasion de mettre en pratique une partie de ce message. Juste une partie, cependant. Si vous êtes ici, ne vous contentez pas d'assister à la réunion demain. Impliquez-vous. Parlez aux gens. Remarquez ceux qui pourraient se sentir en marge. Intégrez ceux avec qui vous ne passez pas habituellement de temps. Tissez des liens plus solides. Si vous n'êtes pas dans la salle et que vous entendez ce message la semaine prochaine, après les cultes, par des appels téléphoniques, des visites, des messages, quelle que soit l'occasion que Dieu vous donne, restez en contact, partagez la communion fraternelle, rendez le corps du Christ plus uni. N'attendez pas que cela arrive par hasard. Faites un effort particulier. Faites votre part pour que les gens ne se retrouvent pas seuls si ce n'est pas nécessaire. Et quand votre épreuve viendra, ou que la mienne viendra, et que personne ne pourra prendre ses décisions à notre place, que personne ne sera physiquement à nos côtés, souvenez-vous que Dieu se tient à vos côtés. Dieu vous donne la force. Utilisez cette force et forgez une conviction dont vous savez qu'elle ne faillira jamais. Vous n'abandonnerez jamais. Vous ne renoncerez jamais à ce mode de vie. Vous continuerez à marcher vers le royaume de Dieu, quoi qu'il vous arrive, d'où que viennent les preuves et quand elles surviennent. Vous serez peut-être mis à l'épreuve à maintes reprises sans soutien visible, mais souvenez-vous, vous n'êtes jamais vraiment seul. Alors restez en lien, impliquez-vous, veillez sur les autres, soyez personnellement convaincus. Frères, si vous faites tout cela, si vous mettez tout cela en pratique, lorsque vous serez mis à l'épreuve, vous réussirez cette épreuve. Vous ferez alors partie de, avec le temps, épreuve après épreuve, accomplissement après accomplissement, vous finirez par faire partie de la famille et du gouvernement de Dieu.